Parcours Cœur de Jésus. Se consacrer au cœur sacré de Jésus. Un parcours en 8 étapes proposé par le Père Martin Prader. Étape 8. Le cœur de Jésus et la vie de prière.
Chers amis, nous abordons aujourd'hui notre dernière séance qui va porter donc sur la quatrième partie du catéchisme de l'Église catholique, à savoir la prière, hein, qui vient comme achever au fond ce mouvement de retour vers Dieu, de retour d'amour, hein, à notre Père du Ciel par le cœur de son Fils dans le don de l'Esprit-Saint. Le mystère de notre conformation au Christ dans l'Esprit-Saint pour la gloire de Dieu et le salut du monde suppose en effet non seulement que les fidèles célèbrent dans la liturgie le mystère de la foi que nous professons dans le credo, mais aussi, comme le dit le catéchisme, qu'ils en vivent dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Cette relation, c'est la prière. Et dans cette vie de prière, eh bien, le cœur de Jésus a, selon l'enseignement des papes, une place centrale, comme l'a fortement souligné le pape Pie XII dans son encyclique Orietis Aquas, à la suite du pape Pie XI dans Misericitissimus Redemptor, son encyclique de 1928. En cette forme de dévotion, disait-il, ne trouve-t-on pas le résumé de toute la religion, et par le fait même, la règle de la perfection, celle qui conduit le plus facilement les esprits à la connaissance approfondie du Christ Seigneur et incline le plus passionnément les cœurs à son amour et le plus efficacement à son imitation. De fait, la prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Car, comme le disait saint Augustin, Dieu a soif que nous ayons soif de lui. C'est ce que montre dans l'évangile de Jean la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits, puis le cri de Jésus sur la croix, suivi de l'épisode du côté transpercé. Notre prière est fondamentalement une réponse à la soif d'amour du Fils unique qui seul peut étancher nos propres soifs par l'eau vive qui jaillit de son cœur transpercé. Cette prière jaillit elle-même dans l'Esprit-Saint de nos propres cœurs assoiffés. Elle est tout orientée vers le Père en union avec la volonté humaine du Fils de Dieu fait homme. Ainsi, les dimensions de la prière chrétienne sont celles de l'amour du Christ de son cœur. Je cite ici le catéchisme, au numéro 2740 et 2741, la prière de Jésus fait de la prière chrétienne une demande efficace. Il en est le modèle, il prie en nous et avec nous, puisque le cœur du Fils ne cherche que ce qui plaît au Père, comment celui des enfants d'adoption s'attacherait-il au don plutôt qu'au donateur? Jésus prie aussi pour nous, à notre place et en notre faveur. Toutes nos demandes ont été recueillis une fois pour toutes dans son cri sur la croix et exaucés par le Père dans sa résurrection. Et c'est pourquoi il ne cesse d'intercéder pour nous auprès de son Père. Si notre prière est résolument unie à celle de Jésus, dans la confiance et l'audace filiale, nous obtenons tout ce que nous demandons en son nom, bien davantage que ceci ou cela, l'Esprit-Saint lui-même, qui contient tous les dons. Il est frappant d'ailleurs de voir comment le catéchisme, quand il parle de la prière, recourt très spontanément au symbole du cœur. Je cite le numéro 2562 et 2563 qui évoque cette anthropologie du cœur. D'où vient la prière de l'homme? Quel que soit le langage de la prière, geste et parole, c'est tout l'homme qui prie. Mais pour désigner le lieu d'où jaillit la prière, les Écritures parlent parfois de l'âme ou de l'esprit, mais le plus souvent du cœur. Plus de 1000 fois, c'est le cœur qui prie. S'il est loin de Dieu, l'expression de la prière est vaine. Le cœur est la demeure où je suis, où j'habite, selon l'expression sémitique où je descends. Il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision, au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisqu'à l'image de Dieu, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. La spiritualité du cœur de Jésus offre donc une voie royale pour comprendre ce qu'est la prière chrétienne, qui consiste fondamentalement à rendre à Dieu amour pour amour. Sans prétendre épuiser la richesse de ce thème, on peut relever dans ce domaine plusieurs aspects fondamentaux de la tradition du cœur de Jésus qui nous aident à comprendre mieux ce qu'est la prière chrétienne. Premier aspect, le cœur de Jésus est le Notre Père. Le catéchisme donne tout un commentaire du Notre Père dans la quatrième partie sur la prière, car dans cette prière se trouve en quelque sorte le résumé de toute prière chrétienne, et même d'une certaine façon de tout l'Évangile. Pour exprimer la prière qui habite le cœur de Jésus, on pourrait prendre, c'est vrai, par exemple, la prière sacerdotale du chapitre 17 de Saint Jean, qui vient en quelque sorte donner le sens ultime du geste du lavement des pieds, mais au-delà de tout le mystère pascal. Mais, comme le souligne le catéchisme, cette prière elle-même, la prière sacerdotale, elle inspire du dedans les grandes demandes du Pater. Le souci du nom du Père, la passion de son règne, l'accomplissement de la volonté du Père, de son dessein de salut et la libération du mal. Cette prière du Notre Père est en fait le résumé de tout l'Évangile, comme l'a dit Tertullien. Saint Augustin l'a dit aussi à sa façon. Parcourez toutes les prières qui sont dans les Écritures, et je ne crois pas que vous puissiez trouver quelque chose qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale. Celle-ci, dit le catéchisme, est la plus parfaite de toutes les prières. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, comme l'a dit saint Thomas d'Aquin, mais encore selon l'ordre où il convient de le désirer. De sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, mais qu'elle forme aussi toute notre affectivité. Elle jaillit du plus profond du cœur même de Jésus et a en quelque sorte pour fonction d'éduquer et de façonner les désirs de nos propres cœurs, en les conformant dans la puissance de l'Esprit à ceux du cœur de Jésus. C'est ce que nous dit là encore le catéchisme. Par les paroles de cette prière, le Fils unique nous donne les paroles que le Père lui a données. Il est le maître de notre prière. Verbe incarné, il connaît dans son cœur d'homme les besoins de ses frères et sœurs humains, et il nous les révèle. Il est le modèle de notre prière. Mais il ne nous laisse pas une formule à répéter machinalement. Comme pour toute prière vocale, c'est par la parole de Dieu que l'Esprit-Saint apprend aux enfants de Dieu à prier leur Père. Jésus nous donne non seulement les paroles de notre prière filiale, il nous donne en même temps l'Esprit par qui elles deviennent en nous Esprit et vie. Donc, en disant le Notre Père, nous laissons Dieu, par son Esprit, conformer nos cœurs au cœur de Jésus. Je cite ici un auteur, Vincent Bedon, qui a essayé d'exprimer cela, ce lien entre la prière du Notre Père et le cœur de Jésus. Quand Jésus transmet sa prière à ses disciples, il leur enseigne la prière véritable dont le Père a soif. Il leur communique sa propre soif de la volonté du Père. Et il les fait entrer dans ce désir mutuel du Père et du Fils. Sa prière est une école où l'on apprend à convertir son cœur en un cœur filial. Pas à pas, Laurent unit sa prière à celle du Fils unique, son cœur bat au même rythme que le sien, dans un désir commun d'obéir à la volonté du Père. Ainsi, peu à peu, le cœur de l'homme se trouve configuré à celui de son divin frère pour vivre et aimer comme lui. Communion au cœur de Jésus, la prière du Notre Père est en même temps indissociablement communion au cœur même de l'Église. C'est ce que nous dit le catéchisme. En priant le Notre Père, chaque baptisé prie dans cette communion qu'est l'Église. La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. On se rappelle que saint Jean Eudes voyait dans le cœur de Jésus et de Marie le cœur même de l'Église, dans lequel se noue la communion ecclésiale. Prier le Notre Père, c'est d'une certaine façon entrer dans la démarche des apôtres au Cénacle, être uni au cœur de Marie pour être uni au cœur de Jésus et par lui au cœur du Père et des frères. Deuxième aspect fondamental de la prière que rappelle la tradition du cœur de Jésus, c'est l'action de grâce et la louange. En effet, un aspect important de la spiritualité du cœur de Jésus est de souligner combien l'ingratitude de nos cœurs, si prompt à oublier les bienfaits de Dieu, blesse profondément le cœur de Jésus, comme Jésus lui-même l'a confié à Marguerite Marie lors des apparitions de Parelmonial. Et cette tradition du cœur de Jésus nous dit à l'inverse qu'au fondement de la réparation appelée par le Seigneur, il y a l'action de grâce qui est une voie royale pour rendre à Dieu amour pour amour. Pour illustrer cela, on pourrait penser à l'épisode de l'Évangile où Jésus donne en exemple l'attitude de ce Samaritain qui seul parmi les 10 lépreux guéris par Jésus revient pour lui manifester la reconnaissance de son cœur. On pourrait dire que ce Samaritain a consolé pour sa part le Christ de l'ingratitude des 9 autres qui n'ont pas estimé nécessaire de venir le remercier pour leur guérison. Nous-mêmes, à l'instar de ce Samaritain, nous sommes invités à rendre grâce. C'est le cœur de la prière chrétienne, c'est le cœur des psaumes. Nous avons tant de motifs de gratitude et nous oublions si souvent de manifester notre reconnaissance à Dieu. La louange, qui consiste à glorifier Dieu à haute voix, peut être une manière de vivre cette juste réparation demandée par le cœur de Jésus. Elle a été heureusement redécouverte dans l'Église à travers le renouveau charismatique, mais elle s'inscrit dans une tradition beaucoup plus ancienne, et notamment très, très précisément dans la tradition du cœur de Jésus. Je voudrais prendre 2 exemples. Depuis le XVIIIe siècle, on a pris l'habitude d'insérer à la fin de l'adoration publique du Saint-Sacrement ce que l'on appelle les divines louanges qui ont été composées par une religieuse de Marseille, ma sœur Marie-Madeleine Rémusat, qui est une grande propagatrice de la dévotion au cœur de Jésus. Et ces divines louanges ont pour but de réparer pour tous les outrages faits à Jésus au Saint-Sacrement. Dans le même sens, au XIXe siècle, dans le cadre du mouvement réparateur de la ville de Tours, lancé par sœur Marie de Saint-Pierre, pour réparer les blasphèmes, on a pris l'habitude de louer Dieu en lançant la pratique des flèches d'or, c'est-à-dire des bénédictions du nom de Dieu. Le peuple juif avait l'habitude de bénir Dieu pour toutes choses. On retrouve ça dans la vie des saints, de saint François d'Assise et de tant de saints. Mais nous aussi, nous sommes invités à bénir Dieu et ainsi aussi à réparer pour toutes les ingratitudes et notamment les blasphèmes commis contre lui. Troisième aspect que souligne la dévotion au cœur de Jésus, c'est le lien entre la parole de Dieu et la prière. L'Écriture sainte est la nourriture première de notre vie spirituelle, comme l'a rappelé le Concile Vatican II avec la constitution Dei Verbum. C'était déjà l'expérience des premiers chrétiens qui, à la suite du Christ lui-même et de la tradition d'Israël, ont cherché dans l'Écriture la nourriture de leur vie spirituelle et le fondement de leur foi. C'était aussi l'enseignement des pères de l'Église, de Saint Jérôme notamment, cité justement par le Concile, « Celui qui méconnaît les Écritures méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » C'est également la pratique séculaire des moines à travers la Lectio Divina. Mais on pourrait dire finalement de tous les saints. Une petite Thérèse, par exemple, disait que c'était l'Évangile qui, avant tout, nourrissait sa prière. Dans le contexte de la polémique avec les protestants, l'Église n'a peut-être pas suffisamment ouvert le trésor des Écritures aux fidèles catholiques au cours des siècles qui ont suivi le Concile de Trente. Mais heureusement, au XXe siècle, le renouveau biblique et patristique a permis de redonner à cette parole de Dieu, à cette Écriture lue dans la tradition et interprétée par le magistère, la place centrale qu'elle a dans la vie de l'Église, en particulier pour la formation spirituelle tant des chrétiens que des pasteurs. Alors ce qui est vrai de la spiritualité en général vaut d'une manière toute particulière pour la tradition du cœur de Jésus. En effet, non seulement celle-ci est fondée sur la méditation priante de l'écriture lue dans la tradition, comme nous l'avons vu dans l'exposé de la Révélation, mais dans la perspective d'Augustin, reprise par Thomas d'Aquin et le catéchisme, cette spiritualité du cœur de Jésus, elle offre, on l'a vu, une clé d'interprétation de toute l'écriture. À travers l'expression « cœur du Christ » est en effet signifiée, dit le catéchisme, l'écriture sainte qui manifeste le cœur du Christ. L'écriture est donc une voie royale pour entrer dans le mystère du cœur de Jésus, comme le cœur de Jésus est une voie royale pour entrer dans le mystère de l'écriture. Une façon de le vivre, c'est la lectio divina. De quoi s'agit-il? Dans la tradition monastique, en particulier celle des chartreux, cette lecture priante de l'écriture tient une place de premier plan. Elle se décompose généralement en trois ou quatre étapes qui correspondent au lent cheminement de la parole de l'extérieur vers l'intérieur, des sens vers l'intelligence et de l'intelligence vers le cœur. La première étape est la lectio proprement dite, qui peut se faire en silence ou à mi-voix, lentement et de façon méditative. Elle peut être répétée et peut se vivre, bien sûr, dans sa chambre. La deuxième étape est la meditatio, qui est une rumination de cette parole avec l'aide de l'intelligence éclairée par l'esprit d'amour. Cette méditation rend l'homme plus apte à accepter les vues de Dieu sur lui-même et sur le monde. Elle nous révèle le plan divin, la beauté de l'œuvre divine, la grandeur de la vérité qui se manifeste aux yeux de l'esprit humain transformé par la foi. La troisième étape est de passer de cette méditation au cœur à cœur proprement dit, ce que la tradition monastique appelle l'oratio, avec une prière plus affective, moins réflexive. Sainte Thérèse d'Avila définissait l'oraison comme un commerce d'amitié, une conversation, un échange, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. Et elle soulignait le fait que dans la prière, il ne s'agit pas tant de parler ou de penser que d'aimer. Il s'agit de laisser cette parole de Dieu descendre dans notre cœur pour l'enflammer d'amour pour Dieu qui nous parle en son verbe dans la lumière de l'esprit. Toute prière vraie est un dialogue d'amour. Et cette oraison peut nous conduire elle-même à la contemplatio, à la contemplation. Elle s'achève dans un abandon confiant dans la main de Dieu, comme l'enfant qui repose sur le cœur de son papa ou de sa maman. Elle nous conduit à cet abandon, à cette livraison de soi, en pleine confiance à Dieu et à son projet d'amour sur nous et sur le monde. Au fond, il s'agit, à travers cette lectio divina, d'entrer à l'école de la Vierge Marie dans ce silencieux amour où s'opère l'échange des cœurs. De laisser notre cœur être uni à celui de Jésus pour faire la volonté du Père. Ceci est vrai de toutes les Écritures, c'est vrai d'une façon particulière des psaumes, qui sont, pour Augustin notamment, l'aliment principal de la prière chrétienne. Or, comme l'a rappelé le pape Pie X, ce grand docteur de l'Église qui était Augustin voyait, comme d'ailleurs les autres pères de l'Église, dans tous les psaumes, la voix du Christ. Soit qu'elle chante ou qu'elle gémisse, qu'elle se réjouisse dans l'espérance ou qu'elle soupire dans la situation présente. Et on pourrait dire de ce fait que la manière de prier les psaumes que nous enseigne l'Église, par exemple dans la liturgie des heures, eh bien c'est une manière, au fond, d'entrer dans les sentiments même du cœur du Christ. J'allais dire dans sa subjectivité priante. C'est une manière de laisser nos cœurs être configurés à celui de Jésus. Quatrième voie pour la prière que nous enseigne la tradition du cœur de Jésus, c'est celle de l'adoration eucharistique. La méditation de la parole nous conduit nécessairement au mystère de l'Eucharistie, où cette parole faite chair s'offre à nous en nourriture. Et de ce point de vue, on peut dire que l'adoration eucharistique est une voie royale pour entrer dans le mystère du cœur de Jésus. C'est bien ce qu'ont souligné les apparitions de Père Monial qui ont toutes eu lieu pendant que Sainte Marguerite Marie était en prière devant le Saint-Sacrement. Ce culte eucharistique qui s'est développé à partir du Moyen-Âge est d'abord une conséquence de la foi en la présence de Jésus sous les espèces, sous les apparences du pain et du vin, de son corps et de son sang, et unie à son corps et à son sang, par concomitance, comme disent les théologiens, eh bien, son humanité, sa divinité, et finalement toute sa personne. Donc, l'adoration eucharistique est d'abord la conséquence de cette foi en la présence réelle et substantielle du Christ sous les apparences du pain et du vin. C'est ce qui a été manifesté à travers l'institution de la fête Dieu au XIIIe siècle. Jésus s'est manifesté à une religieuse de Belgique, de Liège, Sainte Julienne du Mont-Cornillon, lui demandant l'institution d'une fête en l'honneur de l'Eucharistie, qu'on a appelée la fête Dieu justement, le premier jeudi qui suit le dimanche de la Trinité. À une époque où le corps du Christ risquait de ne plus être suffisamment respecté, il s'agissait de redonner aux chrétiens le sens de la présence de Dieu dans ce sacrement de l'Eucharistie et de suppléer ainsi aux manquements commis chaque jour par négligence ou par manque de dévotion à l'égard de l'Eucharistie. Cette fête a été instituée à Liège en 1246, puis étendue à toute l'Église par le pape Urbain IV en 1264. Elle va largement contribuer à propager le culte eucharistique partout dans le monde. Et elle a une très grande importance. L'adoration eucharistique nous dispose à mieux recevoir la communion eucharistique. Saint Augustin disait que nul ne le reçoive s'il ne l'a d'abord adoré. Cette phrase reste d'actualité aujourd'hui. Mais la fête du cœur de Jésus, demandée 4 siècles plus tard par le Christ à Marguerite Marie, vient donner le sens ultime de ce culte eucharistique. C'est au fond de rendre à Jésus amour pour amour, car c'est dans l'Eucharistie qu'il manifeste au maximum son amour, le même qui va le conduire à offrir sa vie pour nous sur la croix. C'est véritablement de puiser à la source même du cœur de Jésus l'amour qui va nous permettre de rendre à Dieu amour pour amour et de donner notre vie pour nos frères. Alors au fond, dans l'adoration eucharistique, il s'agit, comme l'a exprimé Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Eucharistie, de faire l'expérience même de Saint Jean, de reposer sur le cœur de Jésus. Voilà ce qu'écrivait Saint Jean-Paul II. Il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Si à notre époque le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent devant le Saint-Sacrement. Cinquième voie encouragée par la dévotion au cœur de Jésus pour la prière, celle de la vénération des images. Rappelant l'ardent désir du cœur de Jésus d'être aimé des hommes et de les sauver, Sainte Marguerite Marie expliquait en effet « Il me fit voir qu'il fallait honorer le cœur de Dieu sous la figure de ce cœur de chair dont il voulait l'image être exposée et portée sur soi et sur le cœur, pour y imprimer son amour et le remplir de tous les dons dont il était plein, et pour y détruire tous les mouvements déréglés. Et que partout où cette sainte image serait exposée pour y être honorée, il répandrait ses grâces et ses bénédictions. » Et on parle aussi parfois des promesses du Sacré-Cœur. Ben, parmi celles-ci, il y a justement la bénédiction des maisons où l'image du cœur de Jésus sera exposée et honorée. Ce culte du cœur de Jésus à travers des images qui le représente, a été fondé théologiquement par le pape Pie XII dans son encyclique Orietis Aquas, où il a dit qu'il est véritablement possible d'adorer le Père en esprit et en vérité à travers des représentations du cœur de Christ. Non pas qu'on adore les représentations elles-mêmes, mais selon la grande tradition des icônes, qui a été justifiée théologiquement au concile de Nicée II, eh bien, ces représentations nous renvoient à l'humanité du Christ par laquelle nous avons accès au Père et par laquelle nous pouvons adorer le Père en esprit et en vérité. Et dans cette humanité, le cœur occupe une place toute particulière, comme l'a souligné encore une fois le pape Pie XII. Il n'est pas permis de prétendre que la contemplation du cœur physique de Jésus empêche de parvenir à un intime amour de Dieu et qu'elle retarde l'âme dans son progrès vers les plus hautes vertus. C'est à la personne du Verbe incarné comme à sa fin que s'adresse le culte, certes relatif, qu'on rend aux images, que ce soit les reliques des tourments que notre Sauveur endura pour nous, que ce soit la représentation même, dont la vigueur symbolique l'emporte sur celle de toutes les autres, à savoir le cœur transpercé du Christ crucifié. Au fond, à travers le culte des images, il nous est proposé de faire l'expérience même dont parle Saint Jean dans son évangile. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ce « ils », bien sûr, désigne d'abord Marie, Jean, tous ceux qui sont autour de la croix au moment du transpercement du Christ, mais finalement tout le peuple d'Israël et le monde entier, et chacun d'entre nous. Par le regard, en levant les yeux vers celui que nous avons transpercé, eh bien, nous recevons une grâce particulière de transpercement du cœur et finalement d'adoration en esprit en vérité, par un regard à la fois de compassion et de repentance sur le Christ, notre Sauveur. Le pape Benoît XVI, dont on connaît l'inspiration profondément joannique, reprendra cela dans la lettre qu'il a écrite au général de la Compagnie de Jésus pour le 50e anniversaire de l'encyclique Orietis Aquas. La signification la plus profonde de ce culte à l'amour de Dieu, qui est le culte du cœur de Jésus, se manifeste seulement lorsqu'on considère plus attentivement sa contribution non seulement à la connaissance, mais également et surtout à l'expérience personnelle de cet amour dans un dévouement empli de confiance à son service. Expérience et connaissance ne peuvent être séparées l'une de l'autre, l'une fait référence à l'autre. Il faut par ailleurs souligner qu'une véritable connaissance de l'amour de Dieu n'est possible que dans le cadre d'une attitude de prière humble et de disponibilité généreuse. À partir d'une telle attitude intérieure, le regard posé sur le côté transpercé par la lance se transforme en adoration silencieuse. Le regard sur le côté transpercé du Seigneur d'où coule du sang et de l'eau nous aide à reconnaître la multitude des dons de grâce qui en proviennent et nous ouvre à toutes les autres formes de dévotion chrétienne qui sont comprises dans le culte au cœur de Jésus. Le regard au côté transpercé par la lance dans lequel resplendit la volonté sans limite de salut de la part de Dieu ne peut donc être considéré comme une forme passagère de culte ou de dévotion. L'adoration de l'amour de Dieu qui a trouvé dans le symbole du cœur transpercé son expérience historique et dévotionnelle demeure inséparable d'un rapport vivant avec Dieu. Cette importance des images dans la tradition du cœur de Jésus nous conduit à un constat, c'est que bien souvent, les images que l'on a pu produire dans cette tradition ne correspondent plus à la sensibilité de nos contemporains. Nous avons tous en tête des cœurs sanguinolents qui ont pu être représentés au XIXe siècle dans une certaine tradition sulpicienne. Il y a probablement un renouvellement à espérer et à souhaiter de l'iconographie du cœur de Jésus aujourd'hui et qui peut s'inspirer des visions de Marguerite Marie elle-même, qui était, j'allais dire, beaucoup plus flamboyante que ce que la tradition postérieure a pu donner à voir. Et aussi, je pense à des plus contemporains comme le père Teilhard de Chardin, qui portait toujours sur lui une image du cœur de Jésus comme un cœur rayonnant, un cœur de feu rayonnant de lumière, un peu semblable à ce que l'on trouve aujourd'hui dans la fresque du monastère de la Visitation à Paray-le-Monial, qui s'inspire largement de la manière dont le père Teilhard de Chardin recevait cette tradition du cœur de Jésus. C'est sûr que cette représentation d'un cœur flamboyant, d'un cœur de flamme, au fond, correspond mieux à la sensibilité de notre temps. Sixième voie de la prière que nous propose la tradition du cœur de Jésus, et spécialement celle de Paray-le-Monial, ce sont les exercices spirituels de Saint Ignace. La figure de Saint Claude la Colombière, qui est tellement étroitement associée à celle de Marguerite Marie, nous montre en effet comment la logique des exercices spirituels nous conduit directement, d'une certaine façon, à cette adoration du cœur de Jésus, vécu sous le mode d'une amitié profonde avec le Christ. Notamment à travers les contemplations évangéliques, c'est toute notre humanité, nos sens, nos puissances sensitives, notre imagination, notre mémoire, et finalement notre intelligence et notre volonté qui sont convoquées pour contempler l'humanité de Jésus. Et par elle de trouver l'unité de notre personne et aussi cette capacité de répondre à l'appel de Dieu pour faire sa volonté, pour entrer dans le don total de notre vie, dans l'amour même que nous recevons de lui. Dans la tradition des exercices spirituels, la contemplation du cœur de Jésus vient en quelque sorte donner le sens ultime de toutes les contemplations. Il y a moyen vraiment de faire les exercices à cette lumière, comme l'a fait Saint-Claude lui-même après son passage à Paray-le-Monial, et déjà pendant sa retraite de troisième an, où il avait été conduit par la Vierge Marie à reposer sur le cœur de Jésus et à méditer sur l'amitié avec le Christ. Il y a dans la démarche des exercices spirituels une manière de s'offrir à Dieu, qui est une façon, au fond, de lui rendre amour pour amour, hein, de se consacrer à sa personne, de se rendre disponible, mais aussi d'entrer dans cette, justement, logique de l'amour, hein, qui est celle de la contemplation pour obtenir l'amour, qui s'offre pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Il s'agit, au fond, à travers les exercices, de contempler l'amour du Christ pour le monde entier, mais en particulier pour moi, de pouvoir dire à la suite de saint Paul, le Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. De relire tous les mystères de la vie du Christ, les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, à la lumière de cet amour personnel du Christ pour moi et pour tous, et ainsi d'entrer dans une logique de redamatio, de retour d'amour, pour rendre amour pour amour à ce cœur qui nous a tant aimé. Dans la lettre qu'il a écrite aux Jésuites, le 5 octobre 1986, à l'occasion de sa visite à Paray-le-Monial, le pape Jean-Paul II avait fortement souligné le lien entre les exercices spirituels et la mystique du cœur de Jésus. Le désir de connaître intimement le Seigneur et de faire un colloque avec lui cœur à cœur est caractéristique, disait-il, grâce aux exercices spirituels, du dynamisme spirituel et apostolique ignatien tout entier au service de l'amour du cœur de Dieu. Au passage, nous le savons, le pape François, en tant que jésuite et jésuite latino-américain, a personnellement une grande dévotion au cœur de Jésus qu'il a manifestée dès les débuts de son pontificat, en disant que dans le cœur de Jésus se trouve en quelque sorte le symbole par excellence de la miséricorde de Dieu, mais, disait-il, le symbole réel. Le pape François était très au courant des querelles qui ont agité l'Europe du XVIIIe siècle pour savoir quel était l'objet précis de la dévotion au Sacré-Cœur, est-ce qu'il s'agissait du cœur au sens imaginaire du terme ou du cœur de chair du Seigneur. Et c'est bien le cœur de chair en tant que symbole de son amour infini pour Dieu et pour les hommes que nous contemplons dans le culte du cœur de Jésus. Septième point que la tradition du cœur de Jésus met en avant, mais plutôt alors là dans une autre tradition qui est celle du Carmel, l'oraison. L'oraison dont le catéchisme nous parle dans les numéros 2709 à 2710. L'oraison cherche celui que mon cœur aime, dit-il. On voit derrière toute la mystique du Cantique des Cantiques dont on a dit combien elle était étroitement liée à celle du cœur de Jésus. C'est Jésus et en lui le Père. Il est cherché parce que le désiré est toujours le commencement de l'amour et il est cherché dans la foi pure, cette foi qui nous fait naître de lui et vivre de lui. Le choix du temps et de la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, hein, citation de Thérèse d'Avila, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le temps, on prend le temps d'être là pour le Seigneur avec la ferme détermination de ne pas lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. Le cœur est le lieu de la recherche et de la rencontre dans la pauvreté et dans la foi. Vous remarquez cette insistance sur le registre du cœur, hein, c'est le père Corbon, hein, un père spécialiste des pères de l'Orient, hein, qui habitait à Beyrouth, qui a rédigé cette quatrième partie du catéchisme sous les bombes, puisqu'on était en pleine guerre du Liban à l'époque. Et il a donné dans tout ce... cette catéchèse sur la prière a une place fondamentale au cœur, comme symbole de ce que le pape Jean-Paul II appelait le mystère intérieur de l'homme. La tradition du Carmel, qui par excellence porte cette mystique de l'oraison, n'est pas sans lien en effet avec la tradition du cœur de Jésus. On connaît dans la vie de Thérèse d'Avila, par exemple, ce phénomène célèbre de la transverbération, hein, le transpercement de son cœur, hein, qui a tellement frappé l'imagination populaire qu'une fête liturgique lui a été concédée à toute l'Espagne en 1726. Ce phénomène qu'a vécu dans sa chair et dans son cœur de chair, Thérèse d'Avila montre en quoi la recherche de l'eau vive de l'esprit dans l'oraison, qui est au cœur de la mystique du Carmel, jaillit du plus profond du cœur. À la lumière de la soif thérésienne, dit le père Glotin, le cœur peut s'interpréter comme le lieu de ce désir inassouvi de l'amour divin dont gémissait déjà l'épouse biblique. Je suis malade d'amour. Dans la traduction de la Septante, c'est je suis blessé d'amour. Cette eau vive jaillit elle-même du cœur même du Christ. C'est ce que a souligné saint Jean de la Croix, pour qui l'oraison se puisait symboliquement au sein même de Jésus, selon l'interprétation qu'il a donnée lui-même des deux versets de son cantique spirituel. Là, il me donna son sein, là, il m'enseigna une science très savoureuse. La petite Thérèse elle-même, même si elle en a relativement peu parlé, était toute imprégnée de cette mystique du cœur de Jésus, qu'elle a identifiée au fond à la mystique nuptiale du Cantique des Cantiques, relue dans la tradition de saint Jean de la Croix. Et elle voyait véritablement son oraison comme une réponse à l'amour miséricordieux du Christ répandu dans son cœur par le don du Saint-Esprit. Enfin, dernière piste ouverte par la tradition du cœur de Jésus, et non la moindre, c'est le cœur de Marie. Comme l'a souligné le pape Pie XII dans son encyclique Orientis Aquas, Marie est la toute première adoratrice du cœur de Jésus. Dès le premier instant de l'incarnation, son cœur immaculé est uni à celui du Christ qui s'offre et qui entre dans le monde en s'offrant à la volonté du Père. Et toute sa vie sur la terre n'a été qu'un accomplissement de la volonté du Père en union avec le cœur de son Fils. Et cela jusqu'à la croix, jusqu'au transpercement de son cœur. C'est par Marie et seulement par elle que nous pouvons donner la réponse adéquate que Dieu attend de notre propre cœur à l'amour infini de son cœur. C'est l'expérience de saint Jean au pied de la croix. En répondant à l'invitation du Maître, « Voici ta mère », en prenant chez lui Marie dans tous ses biens, dans toute sa personne, et en particulier dans son cœur, eh bien, Jean est rendu capable, par elle et avec elle, de rendre à Jésus amour pour amour, d'être le véritable adorateur du Père. Et finalement, d'aimer Jésus avec le cœur de Marie, comme il a appris à aimer Marie, avec le cœur de Jésus. Cette, introduction dans le mystère de l'union des deux cœurs, de Jésus et de Marie, c'est d'une certaine façon ce qui nous est proposé à travers la prière du rosaire. Dans la prière du rosaire, il s'agit de contempler Jésus par le cœur immaculé de Marie. Saint Luc, dans son évangile, note à deux reprises que Marie symbolisait, méditait, comparait, gardait dans la mémoire de son cœur, toutes les rémata, tous les faits et les gestes de Jésus, les paroles et les actions de Jésus dans tous les mystères de sa vie, les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Et au fond, à travers la récitation priante du rosaire, il nous est proposé d'entrer dans cette attitude contemplative de la Mère de Dieu. Et non seulement ça, mais de permettre à Dieu de prolonger dans nos propres vies ces mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de son Fils. C'est par le cœur de Marie, comme Marie elle-même, être associée à ces mystères, ne faire plus qu'un avec le cœur de Jésus, par le cœur de Marie. C'est là véritablement la voie royale que nous ouvre la tradition du cœur de Jésus. On a bien perçu cela déjà au XVIIe siècle français, où saint François de Sales parlait du cœur de Jésus et de Marie, et à sa suite saint Jean Eudes, et à leur suite Marguerite Marie et saint Claude la Colombière. C'est aussi tout l'héritage de la tradition française du XIXe siècle, en commençant par les apparitions de la rue du Bac, mais aussi toutes ces congrégations vouées au cœur de Jésus et de Marie. Hein, également, toute cette tradition de Notre-Dame du Sacré-Cœur, hein, développée par exemple à Issoudun, hein, par le Père Chevalier. C'est certainement un trésor de notre tradition spirituelle à la française que ce 21e siècle nous invite aussi probablement à redécouvrir, comme l'ont montré un certain nombre de mouvements en faveur de la consécration des diocèses au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Je voudrais citer Jean-Paul II, hein, qui lui-même avait cet grand attachement aux rosaire dans cette méditation justement sur le bien fondé de cette prière. Marie a vécu en gardant les yeux fixés sur le Christ. Les souvenirs de Jésus imprimés dans son esprit l'ont accompagnée en toutes circonstances. Ce sont ces souvenirs qui en un sens ont constitué le rosaire, qu'elle a constamment récité au long des jours de sa vie terrestre. Par nature, la récitation du rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps afin que la personne qui s'y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur, vu à travers le cœur de celle qui fut la plus proche du Seigneur et qu'ainsi s'en dégage des insondables richesses. La récitation du rosaire nous fait entrer de manière naturelle dans la vie du Christ et pour ainsi dire respirer ses sentiments. Le bienheureux Bartolo Longo disait à ce propos, de même que deux amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler dans la manière de vivre, de même nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge par la méditation du rosaire et en formant ensemble une même vie par la communion, nous pouvons devenir autant que notre bassesse le permet, semblables à eux et à apprendre par leurs exemples sublimes à vivre de manière humble, pauvre, cachée, patiente et parfaite. On voit combien le rosaire peut être un chemin tout indiqué pour laisser notre cœur être uni à celui de Jésus et de Marie. Je conclus ce parcours. Dans le cœur de Jésus se trouve en quelque sorte le résumé de toute la religion. Cette formule étonnante du pape Pie XI a été le point de départ de toute cette catéchèse que nous avons essayé de parcourir dans la tradition du cœur de Jésus. Arrivé à son terme, nous espérons avoir pu en montrer un peu la profondeur, grâce notamment au travail du Père Glotin, qui nous avait livré des trésors inestimables de contemplation du cœur de Jésus dans ses différents ouvrages. Mais peut-être qu'à l'issue de ce parcours se posent encore des questions à nous, par exemple celle-ci. Pourquoi avons-nous besoin de l'expression « cœur de Jésus » Ne suffirait-elle pas de parler simplement de l'amour de Jésus, de sa miséricorde? Alors, un théologien contemporain, jésuite, Karl Rahner a voulu répondre à cette question. Il a écrit ceci. L'essence de la chrétienté s'est répandue, dit-il, en une immense profusion qui dépasse chacun. Et cette profusion est telle que finalement tous nous éprouvons le besoin d'un mot qui puisse en quelque sorte tout résumer. Un mot qui soit évocateur d'unité pour tout notre être et pour toute l'humanité. Une sorte de formule sainte qui permettent de tenir en un seul mot la plénitude incommensurable de la réalité du Christ qui s'est répandue dans le cours de l'histoire de l'Église, dans sa piété et dans sa théologie. Malheur à l'époque, disait-il, qui n'a plus un tel mot rassembleur, qui n'aura plus de mot par lequel elle peut tout entendre en son unité réconciliée. Cette époque verra sa pensée et son aspiration déformées, rendues confuses et divisées. Son discours deviendra une cacophonie disharmonieuse, car il se dispersera dans toutes les directions, privé d'une unité unifiante. Où y a-t-il, disait-il, en dehors du mot « cœur de Jésus », un autre mot qui désigne le seul Seigneur unifiant tout et qui unit et intériorise encore par lui-même la plénitude de celui qu'il nomme. Il n'y a aucun autre mot qui n'a retenti que celui du cœur de Jésus. Dans ce mot se trouve tout l'amour miséricordieux qui se donne lui-même et qui constitue le mystère le plus intérieur de Dieu. Ce n'est pas un concept théologique, une définition, mais un mot, un symbole, qui nous introduit dans le secret le plus intime de l'amour de Dieu. Cet amour ne peut pas être défini, compris une fois pour toutes. Au contraire, il faut s'en approcher en le contemplant et en l'adorant si on veut préserver son secret et le recevoir. Le cœur de Jésus, et seulement ce cœur-là, montre que, malgré les apparences, l'amour est la fondation la plus profonde et la plus portante de toute existence et de toute vie. Cela reste souvent pour nous un acte de foi, particulièrement lorsque nous expérimentons la froideur du monde dans notre propre vie, mais c'est justement dans de tels moments de souffrance qu'il s'agit de tenir fermement à l'amour comme la réalité la plus intérieure de notre monde. Si nous tenons cette vérité jusqu'à la mort, si nous la tenons dans toutes les déceptions, si nous la tenons fermement, même lorsque notre propre cœur est transpercé, alors bienheureux serons-nous. Ce n'est pas si facile que cela de comprendre la vérité sur la vénération du Sacré-Cœur Jésus. Si nous avions l'amour qui accepte la souffrance, qui ne craint pas le transpercement du cœur, nous serions joyeux de cette joie qui vient de Dieu et qui coule du cœur transpercé. Alors notre témoignage serait crédible, alors on pourrait connaître à cela que nous annonçons l'Évangile, la Bonne Nouvelle. Un auteur plus récent, fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, qui a beaucoup contribué aussi à renouveler la tradition du Sacré-Cœur, a exprimé cela à sa façon. « Dieu, disait-il, veut à la place de notre cœur de pierre mettre son cœur brûlant d'amour, nous communiquer son ardent désir de sauver les âmes. Pour cela, il veut toucher notre cœur de son amour, le transpercer, le briser. Vraiment, le chemin du Seigneur, c'est Jésus doux et humble de cœur. C'est un chemin extraordinaire. Si on est doux et humble de cœur, il nous transpercera le cœur tranquillement. Et nous recevrons des fleuves d'eau vive de compassion et nous serons transportés jusqu'à la vie éternelle. Il faut demander au Seigneur qu'il nous mette un feu dans le cœur. Il faut se mettre dans son cœur puisque c'est un brasier ardent qui se communique à nous. Alors on brûle d'amour. La mission, c'est vraiment un secret d'amour qu'il nous donne. Puisse le renouvellement des engagements de notre baptême et de notre confirmation, que représente la consécration au cœur de Jésus, nous conduire à ce don de nos vies pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères. Je vous remercie.
Parcours Cœur de Jésus. C'était étape 8, le cœur de Jésus et la vie de prière. Se consacrer au cœur sacré de Jésus. Un parcours en 8 étapes proposé par le Père Martin Prader. Réalisé à la demande et avec le concours de l'association Civilisation de l'amour.